web.
Deuxième partie de la conférence donnée par Bernard Friot à l'IEP de Lyon Occupé le 2 mai 2018, qui se poursuit donc avec un temps d'échange avec les étudiants et étudiantes mobilisés.
Oui, merci beaucoup. Bien sûr que lorsqu'on examine les postes de travail, on regarde le travail concret. Ce qui m'intéresse, c'est le phénomène d'abstraction ensuite, puisqu'on va mettre sur un même niveau de qualification des travaux concrets extrêmement différents, en fonction de critères qui sont plus transversaux, de responsabilité, je sais pas quoi, d'ancienneté souhaitée du titulaire, de pénibilité, d'importance du poste dans le procès de travail, dans la sécurité du procès de travail, enfin, etc. Bon, de diplôme souhaité. On a bien une abstraction. Et je voudrais profiter de ça pour dire ceci, effectivement, que il faut bien distinguer la validation sociale de nos travaux concrets. Nos travaux concrets, ils ont une validation sociale qui est absolument nécessaire. Ce que nous faisons doit être validé en permanence, doit être évalué en permanence. C'est tout à fait normal. Ça peut être une validation par les pairs, ça peut être une validation marchande, enfin, il y a des modes de validation diverses et variées, et ça peut être la validation, je ne sais pas, par les étudiants, selon, je ne sais pas quoi, leur nombre dans un amphi, dans un cours, enfin, tout ça, c'est des formes de validation. Et donc, c'est nécessaire. Hein, pour que nos travaux répondent à une demande sociale, il faut en permanence qu'on évalue leur utilité sociale. Donc le travail concret est au cœur d'une évaluation totalement nécessaire. Mais il faut totalement dissocier cette validation sociale, y compris par le marché. Moi, le capitalisme, ce n'est pas le marché. Les gros capitalistes, ils cherchent en permanence à échapper au marché, au contraire. Ils font faire de la recherche et développement par des start-up, et puis dès que ça marche, dès que le business model est trouvé, hop, ils s'emparent du monopole. Le capitalisme, c'est d'abord une logique monopoliste. Donc le marché, dès lors qu'il est libéré de la logique capitaliste, c'est un très très bon évaluateur. Et moi, je suis pour le marché. Le communisme, dis, ce n'est pas du tout l'absence de marché, certainement pas. En tout cas, tel que dans nos pays, il se construit. Encore une fois, chaque pays capitaliste construit le communisme à sa façon, hein, de même que la bourgeoisie s'est implantée dans les pays de féodalité diverses ou des diverses façons. Mais il y a des homogénéités, bien sûr. Donc, mais il faut bien dissocier, c'est le point que je voulais dire, il faut bien dissocier la validation sociale du produit de mon travail concret de ma validation sociale comme travailleur. Ma validation sociale comme travailleur, elle doit totalement échapper à l'aléa. Je dois pouvoir maîtriser, alors pas tout seul, il faut bien qu'il y ait des tiers, hein, qui, dans des épreuves de qualification, m'attribuent une qualification. Mais une fois que ce niveau de qualification est atteint, il doit être définitif. Il ne peut pas être remis en cause. Vous voyez, le capitalisme, c'est une société qui en permanence, à la fois, nous irresponsabilise, nous sommes totalement irresponsabilisés, puisque nous ne décidons pas de l'investissement, nous ne décidons pas du marché qui va être exploré, nous ne décidons pas des innovations technologiques, etc. Toutes ces décisions relèvent de la bourgeoisie capitaliste. Et en même temps, nous sommes en permanence suspectés. Suspectés de ne pas être à la hauteur, suspectés de ne pas être là où il faut. Et en permanence, avec l'épée de Damoclès de l'emploi, du marché du travail, ou du marché des biens et services sur les travailleurs indépendants. Le marché du travail indépendant, il est en permanence sous la dépendance du marché des biens et services. Alors, le travail de qualification qui a été construit par le mouvement syndical au cours du XXe siècle, mouvement syndical c'est un mot un peu trop général, par la CGT, en général est souvent contre FO, contre la CFDT, etc., parfois avec, hein, mais souvent contre. Ce qui a été construit, c'est un mouvement d'abstraction de la reconnaissance de la personne vis-à-vis de son travail concret. Ce n'est pas mon travail concret qui fonde ma reconnaissance comme producteur de valeur. C'est une abstraction. C'est mon grade, très abstrait. Et c'est une abstraction qui est liée à ma personne. Les droits de l'humain doivent absolument s'enrichir. La bourgeoisie a été capable de faire ce premier article phénoménal. Quand on pense d'où on sort, dans l'aristocratie, dans la féodalité, hein, les humains, enfin les hommes, enfin on va traduire les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Enfin, c'est quelque chose d'inouï, comme conquête. Mais ça n'a été possible que parce que depuis 4 siècles, ils avaient progressivement conquis l'abolition du servage et le fait qu'on soit reconnu comme travailleur, comme individu libre sur un marché. Là, du coup, ben, on est et demeure libres et égaux en droit. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il faut absolument enrichir cet article de cette liberté, cette égalité en droit doit s'exprimer dans le fait que nous sommes reconnus par un salaire lié à notre personne comme producteurs de valeur. C'est ça, cette abstraction. Donc, le lien avec le travail concret, il s'opère par ailleurs aussi lorsque on passe une épreuve de qualification. Vous allez passer une épreuve de qualification où on va évaluer du travail concret, votre capacité. Moi, j'ai accompagné un garçon coiffeur dans ce qu'on appelait la VAE, la validation des acquis d'expérience. Bon, on lui a demandé de faire une coupe, on lui a demandé de connaître la composition chimique des produits qu'il utilise, de savoir causer avec un expert comptable en comprenant à peu près ce qu'il raconte, etc., pour qu'il puisse monter un salon, d'accord, et être autonome. Donc il y a bien un lien avec le travail concret, hein, dans l'abstraction de la qualification. Sauf qu'une fois que ce niveau de qualification est atteint, il est définitif, quoi qu'on fasse. Orientation et qualification personnelle. Écoutez, nous sommes maintenant à l'école maternelle. On a maintenant des gamins pour lesquels les instituts remplissent 130 items sur les compétences. 130 items sur les compétences. Depuis la sixième, enfin c'est des conseillers d'orientation qui m'ont dit ça, C'est à vérifier, mais enfin, je pense que j'ai bien compris ce qu'ils m'ont dit. À partir de la sixième, maintenant, les gamins vont devoir gérer un cahier d'orientation, où ils vont devoir montrer, acquérir des capacités de s'orienter. Et pas de s'orienter sur les travaux qu'ils ont envie de faire, intéressants en matière d'utilité sociale, s'orienter dans le savoir qu'ils ont envie d'acquérir parfaitement gratuitement, parce que le rapport au savoir est gratuit ou il n'est pas. Le rapport au savoir est gratuit ou il n'est pas. Ça, c'est clair. Là, c'est le contraire. Mais non, il s'agit de mobiliser progressivement les personnes autour du marché du travail. De réinstaurer le marché du travail. Vous savez, la bourgeoisie, on ne l'a jamais par les sous. La bourgeoisie, ce n'est pas ses sous qu'elle tient. Les bourgeois, ce n'est pas les riches. Il faut arrêter avec ces conneries. On n'aura jamais la bourgeoisie par une bonne fiscalité. On n'a pas la bourgeoisie en prenant l'argent là où il est. La bourgeoisie, elle n'a pas pris l'argent là où il était. Non seulement elle n'a pas pris l'argent là où il était, mais elle a payé l'impôt aux aristocrates. Au lieu de bosser pour les seigneurs, 3 jours par semaine, dans la taille, la corvée, je ne sais pas quoi, ils ont payé l'impôt et lui ont dit « Je t'emmerde, je ne bosse plus pour toi. Je ne bosse plus pour toi. Je change la pratique du travail. » Je change les institutions du travail. Ce que font tous les vingtenaires et trentenaires éduqués qui aujourd'hui ne jouent pas le jeu, sont dans la dissidence, ne vont pas sur le marché du travail, explorent des chemins nouveaux du travail. Ce sont des révolutionnaires. C'est ça la révolution. Donc, vous voyez que si tout le monde à 18 ans a le même salaire, premier niveau de qualification, l'enjeu de l'école, c'est pas de préparer à la bonne orientation, c'est de préparer à ce que, à 18 ans, on sache ce que c'est qu'assumer 1700 balles de salaire. C'est-à-dire qu'on ait le sens de la responsabilité économique. Parce qu'encore une fois, le salaire, c'est pas une ressource pour satisfaire des besoins. C'est ce qui reconnaît une production de valeur. Derrière le mot salaire, il y a le mot responsabilité. Devenir enfin responsable. Responsable de ce qui se passe à l'université. Responsable du savoir que l'on reçoit, mais aussi auquel on pratique. Moi, plein de mes hypothèses sont venues de réactions d'étudiants, de l'interaction avec les étudiants. Évidemment que le savoir se construit avec les étudiants. Responsabilité. Vous voyez, on sort complètement de ces logiques à la con de l'orientation, avec des filières qui, du coup, vont s'ouvrir en fonction du taux d'emploi à la sortie. Et du coup, il va falloir sélectionner, forcément. Enfin, vous voyez, tout. Il y a une cohérence du projet de l'homme de 40 ans. Ce qui montre que la jeunesse n'est pas une question d'âge. Changement des mentalités. Faiblesse de la psychologie humaine. Je ne vous suivrai pas, excusez-moi, mais ça, je ne vous suivrai pas sur ce terrain. Le capitalisme, il nous irresponsabilise, d'accord ? C'est ça le point central. Et donc, si vous ne décidez pas vraiment au travail, ou si vous montez votre boîte, là, vous avez l'impression d'être responsable, mais vous vous apercevez assez vite que, en fait, vous dépendez du prêteur, du fournisseur, du donneur d'ordre, du client. Et que derrière ces fonctions-là, il y a toujours un groupe capitaliste. Alors ça commence très bien, vous démarrez, vous faites la ruche qui dit oui, et puis ça se termine avec Xavier Niel qui est le propriétaire. C'est foutu. Vous avez fait tout le boulot d'ailleurs avec le RSA, vous êtes démerdé, vous avez fait un truc super, horizontal, plateforme collaborative, horizontalité, etc., etc., illusion de la souveraineté sur le travail, et pouf, vous avez fait la recherche et développement gratos pour un groupe capitaliste qui ensuite instaure le truc à l'échelle du capital. Donc, là, lorsque vous êtes pris en permanence dans cette logique de l'impuissance, vous allez chercher des consolations, oui. Ce sera tout pour ma gueule, ou oh ben, pour ce que je fais, il faut que je sois bien payé, parce que c'est tellement de la merde qu'il faut que je sois bien payé, etc., etc. Vous allez chercher des consolations illusoires dans la consommation, oui. Mais à partir du moment où vous restaurez, où vous instaurez, parce que je n'ai pas de la restaurer, il s'agit d'instaurer la responsabilité. C'est, toute la recherche scientifique fondamentale en France est faite par des gens qui gagnent moins de 6 000 euros par mois. Parce qu'ils sont passionnés par leur travail. Parce qu'ils ont conservé une maîtrise de leur travail. Encore. Peut-être que l'homme de 40 ans va encore s'éveiller sur le truc, mais... Vous voyez, moi je ne crois pas à la nature humaine, personnellement. Je crois que la personne humaine se construit dans des rapports sociaux et que, par exemple, aujourd'hui, un élément décisif de la personne humaine, c'est d'avoir un salaire attaché à sa personne. C'est d'être propriétaire d'usage son outil de travail. C'est pour ça que je suis optimiste pour ce qui me concerne.
Je pense que c'est un pied par rapport à la question de la dignité humaine, le fait de ne pas considérer l'individu seulement comme un consommateur. Là-dessus, je voulais poser la question, je suis allée, on avait commencé à l'élève tout à l'heure, de savoir si justement le réel renversement de la logique capitaliste, ce ne serait pas au contraire d'arrêter les idées, d'arrêter en fait d'utiliser les termes de production, de valeur économique. Pour en revenir en fait à l'idée d'une valeur travail comme bénéfique en elle-même, pour elle-même, par elle-même. Et donc, voilà, c'est là complètement à l'encontre de ce que vous disiez sur le fait de ne pas reconnaître une seule valeur d'usage. Mais voilà, je vous pose quand même la question. Et du coup, un homme qui a une question.
Oui, c'est un genre de sujet, je crois. C'est-à-dire que moi j'avais aussi le problème de dans la qualification individuelle de parler de valeur économique. C'est-à-dire, je pense qu'il faut aussi avoir la valeur sociale, mais je crois qu'à la fin vous disiez effectivement qu'on reconnaissait la valeur sociale de l'individuel. Moi j'avais un autre point que je voulais traiter, c'est en fait, vous avez dit que. Dans ce système de grade où on classe un individu par les valeurs, les principaux détenteurs par déduction, c'est les gens qui ont été haut gradés et du coup qui sont âgés en général. Parce que j'imagine que c'est un temps de. Enfin, il faut acquérir de l'expérience pour avoir le dernier grade. Et moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que, en fait, si il y a une hiérarchisation par l'expérience, est-ce qu'on n'aurait pas encore tendance à laisser la jeunesse en marge et donc. De laisser les idées, sociétales nouvelles prendre encore trop de temps à arriver dans l'opinion publique. Ouais.
Merci. Alors ce que j'avais abordé dans les toutes premières phrases de mon topo sur l'illusion, de la suppression du travail, de la valeur, enfin du travail en tant que production de valeur, de la monnaie et de faire société en considération exclusivement de l'utilité sociale de ce que nous faisons. Dans l'abstrait, je veux bien me rendre à cette objection, mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est ça la question. c'est que, et si j'ai pris la métaphore de la domination masculine, c'est pour bien, j'espère, me faire comprendre de combien la question du travail est complètement traversée par celle du pouvoir. Et donc, que les institutions de l'économie, c'est précisément les institutions qui expriment la violence et qui en même temps la gèrent. Et penser qu'on pourrait s'en passer, bon, alors peut-être que je défends ma corporation d'économistes évidemment, mais là, pour moi c'est vraiment totalement mortifère. Je prends souvent l'exemple de mon saint patron Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, au début du XIIe siècle, il en a marre de la violence féodale. Il veut quitter la violence féodale, il veut travailler de ses mains, il veut faire une vie simple, sans monnaie, sans hiérarchie. Et il entre au monastère pour cela, c'est un lieu où c'est possible. Et il va créer des quantités de monastères à travers l'Europe, c'est un type assez déterminé, sur des bases relativement radicales, hein. C'est interdiction d'employer des paysans, il faut que les moines travaillent eux-mêmes de leurs mains, etc., etc. Oui, bon, mais dès le XIIIe siècle, les cisterciens, c'est donc l'ensemble des moines qu'il a créés, les cisterciens sont les plus grands propriétaires terriens d'Europe. On n'échappe pas à l'économie. C'est ça le point. Qu'il y ait des lieux de témoignage. Il y a toujours eu, dans la tradition chrétienne européenne, c'est des monastères, dans d'autres traditions, ça va être autre chose, ou dans des traditions laïques comme aujourd'hui, ça sera autre chose, ça va être, je ne sais pas quoi, Longomaille, ou je ne sais pas quoi. Qu'il y ait des lieux de témoignage de la violence, enfin contre la violence, dans lequel on travaille de ses mains, on est tous en dehors du circuit de la monnaie, enfin, etc., etc. Je l'entends, c'est des lieux de témoignage utiles, mais on ne fait pas société à partir de l'addition de ce genre de choses. Je crois qu'il y a un moment où il faut bien prendre conscience que la violence doit être gérée et que c'est à ça que servent les institutions de l'économie. Alors, ce que l'on... Par exemple, et c'est tout à fait votre objection, pour prendre l'exemple de la fonction publique à l'université, à la fin de ma carrière, je gagnais trois fois plus qu'un jeune qui démarrait. À peu près trois fois plus. Bon, il y a bien une violence là-dedans. Il y a bien une violence parce que est-ce que la valeur d'usage que je produisais était supérieure à ce jeune docteur en contrat à TER ou autre, c'était pas évident du tout. Hein. Est-ce que ma capacité à entrer en débat avec des gens qui avaient deux générations de différence avec moi était supérieure à la sienne qui avait la même génération? Pas du tout évident. Bon. Donc il y a bien de la violence. Hein. Mais en même temps, c'est pas celui qui, à l'université, même en général, ils essayent de s'en débarrasser le plus vite possible, c'est pas celui qui est le plus ancien, le grade le plus élevé qui dirige. C'est à tour de rôle, c'est électif. Alors évidemment, la réforme de 2009, la LRU a créé une monstruosité qui est les présidences d'université, hein, dont on voit maintenant que c'est vraiment des obstacles, hein, à la vie démocratique. Mais non, partout, partout, absolument partout. Vous voyez ce qu'ils ont signé en soutien à Parcoursup, enfin, etc. Ce sont des adversaires maintenant. Alors que c'était jusque-là des collègues, ça tournait, on était président. Bien, maintenant, il touche une prime qui n'est pas rien, je crois que c'est 50 000 euros par an, enfin, un truc comme ça. Bon, donc, du coup, il y a des gens qui font carrière maintenant, souvent de mauvais enseignants, de mauvais chercheurs, hein, mais pas toujours, ça peut être des bons des fois, mais enfin, en général, ils ne s'emmerdent pas à être président, ceux-là. Des gens qui font carrière et qui, moi j'ai connu ça dans les universités anglaises, hein, c'est les vice-chanceliers qui ont le... Il y a le président, mais qui lui inaugure les chrysanthèmes, c'est le vice-chancelier qui a le pouvoir. Ils sont à 300-400 000 livres par an. Hein. C'est une carrière où on a complètement... Enfin, ce sont des instruments du pouvoir, tout simplement, bon, qui sont grassement payés pour faire ce sale boulot. Bon, on est dans cette dérive possible. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que dans l'université que j'ai connue, donc nous sommes dans des fonctions électives qui tournent, la direction des UFR, des masters, etc., ne relève pas d'une logique gérontocratique. Mais vous avez raison de souligner la difficulté. Encore une fois, je n'ai pas en tête un projet d'un monde idéal. Moi, je ne crois pas du tout à ces trucs-là. Hein. J'ai en tête comment, comme chercheur... ayant passé des dizaines d'années sur la sécu, le salaire, etc., qu'est-ce qu'on peut en tirer comme émancipation, hein, du travail, de la logique capitaliste. Bon. Mais le communisme n'est pas une société sans classe. Je ne crois pas du tout. Je ne définis pas du tout le communisme comme une société sans classe. Ce serait supposé la fin de l'histoire, ce serait supposé une transparence des valeurs sociales, auxquelles, enfin en tout cas peut-être que dans 10 000 ans, moi j'en sais rien, hein, mais en tout cas à échelle de ce qu'on peut penser comme chercheur, pour moi ça n'a pas de sens. C'est pour ça aussi que je suis pour la hiérarchie des salaires, parce que la hiérarchie des salaires c'est une façon d'exprimer la violence sociale en même temps de la gérer, parce que la hiérarchie des salaires, elle se construit par des jurys qui sont des lieux politiques où on change les critères, où on délabore les critères ensemble, etc., où on peut contester l'existant. Et en même temps, cette hiérarchie des salaires permet de donner un exutoire au pouvoir. Les réponses sont insatisfaisantes de toute façon, hein, parce que là, ce sont des questions que seule la vie régulera. Hein, on ne peut pas décider d'avance ce qui se passera.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Est-ce qu'une femme a une question ? Appuyez longtemps sur le bouton rouge qui est juste en dessous. C'est bon. Attends deux secondes. C'est bon.
Moi, je le vois un peu l'avocat du diable. J'ai posé une question en fait qui vient assez rapidement dès qu'on aborde la question du salaire à vie ou ce genre de choses. C'est finalement, si on donne un salaire à tout le monde, est-ce que ça va pas pousser les gens à rien faire? Et en fait, quand on me la pose, ça m'agace un peu parce que je trouve ça un peu bête, mais je ne sais pas trop y répondre. Et je me demandais je pense que vous avez eu affaire à cette question, parce que je voulais répondre à ça.
On va prendre une deuxième question dans le même temps.
Juste à côté de toi, il voulait poser une question depuis un moment.
Alors, concernant, c'est plutôt dans ce que vous avez dit, j'ai pu noter que lui-même, j'avais déjà fait cette observation-là cette année, en stage en école primaire, où on montrait finalement des affiches de la CGT dans les années 40, où on disait que passer à 40 heures permettrait aux pères de famille de pouvoir revenir dans le giron familial. Finalement, derrière ça, j'avais trouvé là une controverse à ce que vous disiez concernant le fait que la CGT avait travaillé avec le Parti communiste sur l'instauration d'une, comme vous l'avez dit, sur l'instauration du régime général. Et au final, je m'étais demandé si il n'y aurait pas finalement une éthique communiste, une éthique capitaliste qui, travaillant avec un lexique en apparence similaire mais profondément polysémique, on pouvait justement se faire niquer.
Se faire
niquer, baiser.
Oui, oui.
Enfin, se faire avoir. Et ma question justement, ça serait quel remède apporter à cela.
Ah, attendez. Comment ne pas se faire baiser, mais sur quel sujet, j'aurais bien compris.
Le sujet lexical. Vous disiez par exemple que Bernard Croizat parlait de dignité. Or, j'ai cru comprendre, je crois comprendre à chaque fois que j'écoute l'Assemblée nationale, que c'est un thème qui revient sur chacune des lois, quel que soit le camp politique. Et finalement, je ne comprends pas vraiment en quoi est-ce que le fait de ne pas parler, de ne pas dire en quoi on institue une déconnexion entre salaire et poste, permet finalement d'améliorer la situation.
Bon, je vais faire écho en fonction de ce que j'ai compris, puis si ce n'est pas ça, vous me direz. Sur la motivation au travail, oui, je comprends votre agacement devant la réaction immédiate. Bon, y a un assez bon truc que font les partisans du revenu de base, mes adversaires, mais enfin, ils ont aussi des trucs parfois intéressants. Ils disent, bon, ils font passer un test avec deux questions. Vous avez un revenu de base, est-ce que vous continuez à travailler? Réponse à 70-80% oui, 20% moins que maintenant, et 10% je me couche. Bon. Votre voisin, lui il arrête. Vous voyez, c'est pas mal quand même comme démonstration. C'est-à-dire que c'est toujours supposé que c'est toujours les autres qui vont arrêter. Pourquoi ? Parce que nous avons tous conscience de la valeur anthropologique du travail. Et donc on ne se voit pas être là à ne rien faire. Bon, mais ça c'est une réponse à demi. Pour moi, la réponse essentielle, c'est la responsabilité, encore une fois. Le salaire à vie, le salaire à la personne, le salaire à vie c'est le mot qui s'est imposé, donc je l'assume, mais c'est pas vraiment le mien, hein, c'est le salaire à la qualification personnelle. Ce n'est qu'un des éléments du changement du mode de production. Il y a aussi la propriété, c'est-à-dire la responsabilité économique, l'éducation à la responsabilité économique dès l'enfance. Le fait que l'on soit en permanence appelé dans le quotidien de l'entreprise à participer aux décisions. Et, mais ça suppose une sacrée éducation préalable. Je ne pense pas qu'on puisse réfléchir sur les effets du salaire à vie en termes de motivation au travail si on le dissocie de la question de la propriété. Les deux choses sont absolument indissociables. Sur le discours de la CGT des années 40, mais oui, encore une fois, je suis bien d'accord, c'est pas du tout un discours qui dit « nous sommes en train d'instituer une forme alternative de travail ». Mais lorsque Rocard, faisons le test inverse, quand Rocard crée la CSG, il ne dit pas « je suis en train de restaurer la pratique capitaliste du travail ». Il n'en a même pas conscience éventuellement. Il le fait, c'est ça l'essentiel. La conscience de classe, ça n'est pas dans l'ordre des représentations d'abord, c'est dans l'ordre des actes d'abord. Alors évidemment, Il y a un moment où il faut que les représentations soient cohérentes avec les actes, avec les institutions posées. Si, par exemple, Croizat attribue, enfin la loi Croizat, c'est pas Croizat en tant que tel, c'est bon. S'il y a attribution de salaire aux parents, mais que, y compris dans les milieux les plus concernés par les allocations familiales, ne se déploie pas du tout la représentation que les parents sont productifs, qu'on continue à rester avec l'idée ne sont productifs que ceux qui sont dans l'emploi, qui se soumettent au capital comme travailleurs indépendants ou comme employés. Bon. Évidemment qu'à un moment, Rocard va arriver et dire bah, « Attendez, bah non, les parents ne travaillent pas, il n'y a pas de raison que ce soit du salaire qui les paye. » Donc, il faut que, d'une façon ou d'une autre, les représentations s'ajustent aux actes qu'on pose. Mais les représentations ne précèdent pas les actes qu'on pose. C'est pas parce qu'on est porteur d'un projet positif qu'on va poser des actes positifs. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir ce projet pour le faire, d'ailleurs. Une représentation, sauf à être idéaliste, moi je ne suis pas idéaliste, je suis matérialiste historique, on va dire. Nos représentations, elles sont, là encore, nos représentations sont le fruit de rapports sociaux. Ce n'est qu'à partir du moment où, pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, une institution du salaire pour les retraités, avec des retraités qui touchent du salaire et non pas la contrepartie de leur cotisation passée, qu'on peut commencer à avoir des expériences comme la mienne. Et quand d'ailleurs, non pas un public jeune comme ici, mais un public de retraités, c'est le Parti communiste qui m'invite, par exemple. Donc, il n'y a que des retraités, d'accord ? Un public de retraités. Quand je dis, mais il y a mieux à faire que d'être bénévole, nous avons une responsabilité économique. Je rejoins l'expérience de tas de retraités qui en ont marre d'être bénévoles, qui en ont assez d'être relégués dans la valeur d'usage, dans l'utilité sociale, qui entendent bien continuer à relever de la décision en matière économique. Mais encore faut-il qu'il y ait cette longue expérience. Et donc si Macron arrive et réussit à supprimer cette institution, avant que l'expérience ait pu s'exprimer dans la représentation nouvelle et que la bataille soit menée en 2019, ce que j'espère, sur tout le monde doit avoir à 55 ans 100% de son meilleur salaire, quelle que soit sa durée de cotisation, là on est dans la poursuite de la construction du régime général en 1946 et revendiquer qu'à 55 ans, on n'ait plus besoin d'aller sur le marché du travail pour être reconnu comme travailleur, avec un salaire plein, indépendamment de sa durée de cotisation. C'est supprimer la double peine des femmes, parce que non seulement les femmes ont 27% de salaire en moins, mais elles ont 40% de retraite en moins, parce qu'elles n'ont pas la carrière, à cause justement de la double journée. Donc on supprime la double peine des femmes, mais en plus, alors, on devient légitime à dire que les étudiants ont droit au salaire, les jeunes à 18 ans ont droit au salaire. Vous ne pouvez pas vous battre pour le droit au salaire à 18 ans si vous ne vous battez pas pour le droit au salaire après 55 ans, hors de l'emploi. Hein. Tout ça est... Ça suppose effectivement un changement des représentations. Il y a une guerre des mots, donc les questions, pour ne pas se faire avoir sur le plan sémantique, il faut mener la guerre des mots. Moi, je mène la guerre des mots. Je ne sais pas si c'était ça votre question.
Disons que vous y répondez. même cette guerre de mots, finalement, vous dites vous-même qu'elle existe déjà.
Parlez plus fort, peut-être, à la fois pour moi et pour tout le monde. Surtout que vous avez le micro en plus.
Vous y répondez, oui, mais ce que je disais juste, c'est que vous-même, vous reconnaissez déjà que cette guerre existe, vous le dites, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais en disant que Croizat parle de dignité et que, à l'inverse, Rocard parlerait de solidarité comme si Croizat ne parlait pas de solidarité en même temps qu'il parlait de dignité, ni même de mérite, finalement c'est déjà une guerre des mots. Et après justement avoir mené la guerre des mots, qu'est-ce qui nous reste quand finalement c'est que sur ça serait que sur ce terrain-là que ça se jouerait?
Ah non, moi, je ne dis pas du tout que on perd parce qu'on mène mal la guerre des mots. Je ne pose pas l'orientation comme première. J'insiste, parce que je suis intellectuel, sur l'importance de l'orientation, parce que je construis l'orientation moi-même. Mais j'ai conscience que ce n'est pas le nerf de la guerre. Il y a l'organisation, il y a ce qui, encore une fois, ce qui précède totalement ce qu'on a pu, même ce qu'on peut concevoir. Moi, je suis confronté à un imprévu, qui est, encore une fois, la sécession d'une partie de la jeunesse éduquée. C'était pas au programme, ça. C'est nouveau. C'est plein d'ambiguïté. Ceux qui bricolent avec le RSA pour faire de l'alternatif, ils peuvent être parfaitement tentés par les 800 balles de Hamon, c'est sûr. Donc c'est plein d'ambiguïté, mais ça, c'est des actes qui ont une portée révolutionnaire. Même si le discours qui l'accompagne, lui, est tout à fait discutable éventuellement. Mais encore faut-il que, et c'est ça la leçon que nous donnent les révolutionnaires de 1946, encore faut-il que ces initiatives alternatives atteignent un poids spécifique au niveau macroéconomique. Sinon, ça va être du témoignage. Et alors, c'est tellement évident qu'aujourd'hui, les groupes capitalistes utilisent tous ces jeunes dissidents dans le logiciel libre, dans la recherche d'énergie nouvelle, dans des formes nouvelles de ce système de distribution, pour faire de la recherche-développement gratos, et ensuite ils empochent le truc une fois que c'est devenu rentable pour le capital. Donc beaucoup de jeunes dissidents, à leur corps défendant, en fait font de la recherche-développement pour le capital, gratos. Donc il faut absolument que toutes ces dissidences-là fassent système à l'échelle nationale avec des modes de financement autonomes, etc. Ce que la bourgeoisie a fait, elle s'est autonomisée vis-à-vis de l'aristocratie. Il faut que, pareil, tous ces modes de production alternatifs s'autonomisent par rapport aux modes de production capitalistes. Mais ça suppose des institutions macro énormes. Vous ne pouvez pas... Dans l'enjeu énorme qu'il y a pour le capital ne maîtrise pas la production ferroviaire, du transport ferroviaire, il ne le maîtrise pas. C'est des salariés à statut et c'est de la propriété patrimoniale non lucrative. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a contourné le truc par la route, parce qu'il maîtrise complètement la route, les bagnoles, les autoroutes, tout ça. Il n'y a plus que 10% maintenant des transports de personnes qui se font par le fer. Ça a chuté. Donc il contourne. Au mépris de toute considération écologique, il s'en fout, éperdument. Sauf les pleurnicheries de la COP21, enfin des trucs comme ça de temps en temps. Et puis, lorsqu'il sent que c'est possible, il s'empare du ferroviaire. Privatisation, et surtout plus de statut pour les cheminots, etc. Pour en faire un outil capitaliste. Bon, vous comprenez que dans des enjeux d'une force et d'une violence aussi grande, c'est pas en faisant des alternatives à droite à gauche sur le plateau de Mille Vaches qu'on fait le poids. Ça suffit pas. Il faut aller plus loin. C'est un chemin absolument nécessaire, ces alternatives. Absolument nécessaire. Mais il faut qu'elle soit à la hauteur de la lutte de classe de ce qui se joue actuellement dans les transports, par exemple.
D'autres questions? Alors, est-ce que vous pouvez tous lever la main qu'on voit combien de questions il reste?
Okay.
Ce sera les dernières questions. Sarah, tu avais une question ou pas? Non, c'est bon. Ok, donc aucune femme n'a de questions. On a fait des hommes.
En premier, voilà. Fais passer à celui qui est prêt. Bon, les gars, tout est comme ça.
Donc, on va prendre les 4-5 dernières.
D'accord.
Et voilà.
Je me souviens d'une conférence au cours de laquelle vous disiez qu'il ne faut surtout pas se focaliser sur la question de la répartition des revenus, mais sans ça, Piketty. Ce qui compte, vous l'avez dit comme ça, et ce qui compte en fait en réalité au niveau des entreprises, c'est le pouvoir de décision que doivent acquérir les salariés au sein de l'entreprise. Et donc sur vous, ça passe par la détention des moyens de production. Alors quelles sont les alternatives, les modèles qui vous semblent les plus pertinents? Est-ce que c'est le modèle des scopes par exemple? Et est-ce qu'il en existe d'autres qui vous intéressent? Ça tombe bien parce que justement ma question c'était sur les scopes comme alternative, puisque comme elles appartiennent majoritairement à un salarié, il me semble qu'on retrouve un peu ce que vous avez expliqué au niveau de la propriété de l'outil de production et l'éducation à la responsabilité économique avec la participation aux prises de décision. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les plus modèles?
Bonjour, ma question elle concerne du coup la soutenabilité en fait du modèle, du modèle salarial. Vu que pour avoir une reconnaissance de la qualification, c'est au travers du salaire, et que le salaire en fait est géré via des caisses de cotisation, comment la collecte des cotisations permet un système macroéconomique stable qui permet justement de concrétiser la reconnaissance théorique de notre qualification? De la valeur de l'abstrait du travail. Donc en gros, c'est
comment se formuler les prix. Donc, moi, c'est une question un peu pas du tout, je suis désolé, une question politique. Très concrète, parce que je suis bien d'accord avec vous que prendre l'État, ça peut prendre conscience de l'État. Ça ne va pas permettre de changer essentiellement les choses. Mais dans le contexte actuel, vu les institutions politiques, la faible syndicalisation, comment on fait pour se défendre en fait? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut laisser la chaise vide, en quelque sorte? Du coup, question subsidiaire très très magique.
Est-ce qu'on peut laisser lâcher? Je ne sais pas.
Comment?
Comment est-ce qu'on peut se défendre? Vous avez dit quoi?
Laisser la chaise vide.
Ou dans les institutions politiques.
Oui, voilà.
D'accord.
Du coup, la question qui arrive, c'est qu'il est. Enfin, comment dire. Est-ce que pour vous, ça sert à quelque chose de voter? Et alors, je ne vais pas vous demander pour qui voter, mais qu'est-ce que vous pensez de la France Insoumise, en fait? Et autre, enfin, merci beaucoup.
Ça va libérer des quantités de gens incroyables, de travaux de tâcherons, de boulot insupportable. Et donc, il va y avoir une chute d'une partie de l'économie, quoi. Il va falloir réorganiser le monde du travail à grande échelle et rediriger les travailleurs qui récemment tout fraîchement libérés. Et selon vous, est-ce que ça va se passer, ça peut se passer correctement? Ou est-ce que ça va être un joyeux bordel pendant quelque temps?
Merci beaucoup. Alors, pour les scopes, on va faire à Réseau Salarial, vous savez, on a un séminaire mensuel à la Bourse du Travail à Paris. Cette année, c'était sur les droits économiques de la personne. L'an prochain, c'est sur les retraites, parce que ça va être un des gros enjeux de la bagarre. Et puis l'année d'après, ça va être sur l'entreprise, parce que de fait, il y a beaucoup de réflexions qui se font. Et moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, j'y connais rien. Moi, je suis spécialiste du salaire, la protection sociale, donc je n'ai pas, de compétences pour répondre vraiment sur les scopes. Sauf que ma réponse, elle est très générale. C'est la même qu'à propos des dissidences. C'est une forme ancienne de dissidence, hein, qui date déjà de près de 2 siècles. Et au bout de 2 siècles, nous avons 50 000 salariés dans les scopes pour 25 millions d'actifs. Donc, c'est une dissidence qui, pour le moment, reste totalement dans la marginalité. Et ce qui montre combien l'urgence, c'est de fédérer, hein, que toutes les dissidences atteignent un poids spécifique suffisant pour se passer du crédit capitaliste, commencer à générer des formes de salaire à la qualification dans une forme d'entre-soi, mais à un niveau tel que ce soit suffisant. Bon, c'est peut-être pas les bonnes méthodes d'ailleurs, moi je ne suis pas, encore une fois, réformateur social, hein, mais bon, mon obsession, hein, c'est que c'est que les institutions communistes du travail atteignent une taille critique, hein, qu'elles n'ont pas pour le moment. Mais encore une fois, quand on regarde l'histoire du capitalisme, c'est pareil, hein, il y a eu des moments même où la capacité de l'aristocratie à le submerger était là. Enfin, bon, c'est une bagarre très longue avec des reculs actuellement, depuis, on est dans une phase de recul actuellement, mais cette phase de recul sur des conquis anciens, c'est aussi une phase d'invention de neuf, hein, dans toutes ces dissidences dont j'ai parlé. Alors voilà, c'est un peu général parce que je ne suis pas spécialiste de l'entreprise. Sur bien sûr, pour qu'il y ait, sur la soutenabilité, évidemment, pour qu'il y ait salaire, encore faut-il qu'il y ait production de valeur. C'est ça votre question, je suppose. La production de valeur, c'est une objection d'ailleurs à laquelle je donne des éléments de réponse. Mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste des prix, donc je ne suis pas forcément très bon. Dans Émanciper le travail, l'avant-dernier bouquin, parce que mon interlocuteur me dit, mais alors comment les prix se forment, etc. Bon. Parce qu'effectivement, à partir du moment où les entreprises ne payent plus leurs salariés, si vous voulez qu'il y ait salaire à vie, salaire à la personne, ce n'est pas chaque entreprise qui paye, aucune entreprise ne peut assumer. Les entreprises cotisent, d'accord, au prorata de leur valeur ajoutée, à une caisse, à des caisses qui versent les salaires. Et à partir du moment où les entreprises n'ont pas d'emprunt à rembourser, puisque l'investissement est subventionné, un point qu'on n'a pas eu le temps du tout de voir ici, parce que c'était sur le salaire qu'on réfléchissait, j'ai pas pu réfléchir avec vous sur la question de l'investissement, mais on voit très bien le problème, c'est qu'elles pourraient, si elles n'ont aucun remboursement d'emprunt ou de dividendes pour des actionnaires, et aucun salaire à verser, ben elles peuvent vendre après coup de temps, puisque le marché demeure. Il faut que le marché demeure. Donc il y a une compétition par les prix. Elles vendent après coup de temps et il n'y a plus de valeur ajoutée du tout. Enfin, si on raisonne à la limite, disons. Hein. Et donc on a tué la poule au cerf d'or. Donc évidemment qu'il faut s'assurer que dans une logique où ça n'est plus au niveau microéconomique que se distribue la valeur dans les salaires, dans les remboursements d'emprunt, mais où elle se distribue par une socialisation, comment se forment les prix? C'est un vrai problème que je soumets à votre sagacité. Moi, la réponse que je fais, mais qui ne vaut peut-être pas tripette, hein, mais en tous les cas, je le fais avec l'autorité d'un professeur d'université, c'est-à-dire quelqu'un qui se croit beaucoup et qui n'est pas grand-chose. c'est de dire, bon, supposons que je ne connais pas le poids de la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires aujourd'hui. Bon, supposons que ce soit 30%, je ne sais pas de combien c'est le poids de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, hein, c'est le chiffre d'affaires moins les intrants, moins les consommations intermédiaires, ça c'est la valeur ajoutée. Les intrants, c'est ce qu'on achète en matière première, en énergie, la location de l'immeuble pour lequel on travaille, je ne sais pas quoi, enfin bref, toute une série de consommations intermédiaires. Et puis, l'entreprise va les utiliser, d'accord, l'amortissement des outils, en fait, etc., va les utiliser pour produire une valeur nouvelle qui va se répartir entre salaire et profit, pour l'essentiel. Cette valeur ajoutée, supposons que ce soit 30% du PIB, 30% du chiffre d'affaires. Bah, ça veut donc dire que, en prenant si c'est le tiers du chiffre d'affaires, prenons un chiffre plus rond, le tiers du chiffre d'affaires, ça veut donc dire que les consommations intermédiaires sont les deux tiers du chiffre d'affaires et que la valeur ajoutée, c'est la moitié des consommations, l'équivalent de la moitié. C'est 50%. Donc on peut très bien, si c'est cela, si c'est 50%, on peut, par exemple, proposer que les prix soient formés en multipliant par 1,50 la totalité des consommations intermédiaires utilisées, avec obligation de le faire. On génère donc une valeur ajoutée suffisante. Et il reste bien la compétition par les prix qui va inciter à diminuer les consommations intermédiaires et donc à améliorer la productivité. Bon. Lourdon m'a dit que c'était con, mais il n'a pas, pas été plus loin, donc il faudra qu'il m'en dise plus. Je ne sais pas, hein, d'accord. Mais ça vaut le coup justement, hein, que ce soit ces débats-là qu'on ait ensemble, hein, plutôt que des débats sur les malheurs du temps, enfin, etc., etc. Qu'on soit dans l'inventivité collective. Je crois que c'est très important, ça. Chaise vide dans les institutions politiques, qu'est-ce que je pense de EFI? Alors, chaise vide dans les institutions politiques, non, encore une fois, on peut être sur des strapontins pendant un an, comme l'ont été les ministres communistes en 1946. Hein, et il faut l'être, c'est impératif. Comme la bourgeoisie l'a été, pendant la monarchie absolue, elle s'est coulée un peu dans le jeu politique du monarque, parce que l'obsession du monarque, c'était de casser la gueule aux féodaux, qui était aussi l'obsession des bourgeois. Donc, ils avaient un intérêt commun, d'accord? Mais ils n'étaient pas au pouvoir. C'était bien Louis XIV qui était au pouvoir. Ils étaient sur des strapontins. Il faut y être, parce qu'en y étant, ils ont pu, évidemment... faire passer des dispositions, des institutions cohérentes avec le mode de production capitaliste qu'ils étaient en train de construire, ça, à coup sûr. Hein. Ce que j'ai voulu dire, moi, simplement, c'était un peu tordre le bâton dans l'autre sens, de dire, arrêtons de considérer, de définir la révolution comme le changement du régime politique. Le changement du régime politique, c'est la cerise sur le gâteau quand on a changé le régime économique. C'est ça, la révolution. C'est les deux, bien sûr, mais en commençant par le régime économique. Mais pour changer le régime économique, il faut évidemment être au pouvoir minoritaire de temps en temps, oui, bien sûr. Mais j'observe aussi que le changement du régime économique ne passe pas forcément par la loi. Hein. Vous avez ce très beau bouquin d'un auteur que j'ai oublié, d'un auteur anglais que j'ai oublié, mince, mais enfin bon, sur la façon dont évolue le droit de propriété, enfin, dont les affaires de droit pénal sur le vol en forêt au XVIIIe siècle sont l'indicateur d'un changement du droit de propriété féodal vers un droit de propriété capitaliste. Bon. Il montre comment, au début du XVIIIe siècle, les voleurs de bois en forêt sont jugés pour atteinte à la propriété aristocratique. La forêt, c'est les aristocrates, on va pas, les manants ne vont pas dans les forêts, arrêtez de nous emmerder. Et puis, à la fin, ils sont jugés parce qu'ils ont volé un propriétaire. C'est tout à fait autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Là, nous sommes dans la propriété lucrative. Nous sommes dans la propriété bourgeoise. Et là, ça s'est fait par la jurisprudence, pas du tout par la loi. Il n'y a pas eu besoin de présence au pouvoir. Ça, c'est la jurisprudence qui a fait le changement. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est un dossier immense que je ne maîtrise pas. Donc, n'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai, sur lequel j'ai rien à dire. Hein, mais bien sûr qu'il faut être là. Mais moi, ce que je constate, par exemple, c'est que à quoi bon aujourd'hui être. Enfin, pour moi, je me bats, je suis minoritaire et je suis battu, mais je me bats contre la participation aux élections présidentielles. C'est un piège à con absolu. Espèce de concours cacanal de beauté. C'est le type même du débat non démocratique. J'étais trop jeune en 62 pour voter, mais j'étais contre, je me souviens, contre l'ajout de De Gaulle par référendum de l'élection du président au suffrage universel à la Constitution de la Ve République. Ça a été une catastrophe totale, cette affaire. Une catastrophe. C'est de pire en pire. Qui sera le prochain élu? On a peur quand on voit la succession des élus. C'est quand même terrible. Et donc... moi, je milite pour qu'on organise le boycott de cette élection, qu'on fasse un énorme travail politique sur son caractère profondément antidémocratique, sur le fait de s'abandonner à une personnalité providentielle. Enfin, c'est quand même de la folie furieuse. Et puis qu'on fasse de grandes fêtes devant les bureaux de vote pour empêcher, enfin un peu armé et casqué peut-être qu'aussi quand même, mais pour empêcher le truc. Voilà, c'est off hein, ça, mais enfin bon. D'accord. Alors maintenant sur France Insoumise, moi je suis invité, je suis au Parti communiste. Et ceux de France Insoumise qui m'invitent, je suis beaucoup invité par France Insoumise, savent très bien que je vais dire qu'on ne construit rien dans ce pays de progressistes sans et contre le Parti communiste. Et puis ils l'entendent et ils sont d'accord. Et je trouve des militants tout à fait intéressants, un peu plus jeunes que le parti, souvent d'anciens communistes au demeurant. Et donc banco, France Insoumise, bien sûr. Moi, j'ai pas d'objection. Hein. J'ai beaucoup d'objections à Mélenchon, mais Mélenchon, c'est pas la France Insoumise, que je sache. Parce que je ne crois pas aux hommes providentiels. Il faut absolument arrêter dans cette logique un peu franco-française qui est vraiment terrible. Quoi. Alors, quelle réorganisation du monde du travail? Ben oui, je suis bien d'accord. Hein, c'est pour ça qu'il faut démarrer tout de suite. Hein. Vous voyez, moi, je rêve, mais pour le moment, c'est de l'ordre du rêve, mais je rêve, par exemple, que la grève de la SNCF, ce soit 2 jours, on ne travaille pas, 3 jours, on travaille comme on entend travailler, et on emmerde la direction. C'est-à-dire qu'on s'auto-organise. Pour qu'il y ait cette habitude progressive de s'auto-organiser au travail. C'est décisif, hein, et donc de s'autoriser à être souverain. Ça va prendre des décennies, hein, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Hein. Raison de plus pour commencer dès aujourd'hui. Hein. L'auto-organisation. Donc du coup, moi je ne crois pas que les choses vont se passer tout d'un coup, pouf, hop, on va passer du capitalisme au communisme. Et donc il y aura un joyeux bazar... agrémenté de quelques guerres civiles, je sais pas quoi, pendant quelques années. Moi, je ne crois pas que c'est comme ça. Et je ne souhaite pas que ce soit comme ça que ça se passe. Je pense que les choses se passent non pas dans une espèce de progressivité du long fleuve tranquille. C'est pas du tout. C'est de la bagarre permanente. Mais je veux dire dans laquelle les travailleurs se construisent progressivement comme souverains sur le terrain. C'est ça le point central. Et donc, ça ne peut s'accompagner que d'un changement de l'école. Là encore, ça suppose qu'à l'école, les enseignants se considèrent comme devant former à la responsabilité économique, hein, à la co-responsabilité, et non pas à la concurrence sur le marché du travail. Et donc, qu'on supprime les notes, qu'on supprime les filières, enfin, etc. Il y a tout un tas de choses à bouger. Hein.
Bon. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Il y avait 126 personnes, donc j'ai pris un comptage totalement officiel.
Par les organisateurs, la police en a compté 67.
Et merci beaucoup d'être venu aussi nombreux aujourd'hui.
De son mixage-montage, Rémi Cerda pour Transistor, avec la participation des étudiantes et étudiants mobilisés de l'IEP de Lyon.